Nous avions également l'impression qu'au-delà des qualités que nous pouvions sentir, il y en avait d'autres qui rôdaient en dehors des limites de notre perception. Certaines touches ici et là suggéraient vaguement des symboles et des stimuli latents qui, si nous avions possédé un fonctionnement mental et émotionnel bien différent et un équipement sensoriel plus perfectionné, auraient probablement pris pour nous une signification profonde et radicale. L'inspiration des sculptures provenait de toute évidence de la vie telle qu'elle se déroulait à l'époque lointaine de leur création et était en grande partie historique. C'est cette conscience historique anormale chez une race primitive, une circonstance jouant le hasard soit loué en notre faveur, qui faisait de ces gravures une source précieuse d'informations et nous imposait donc de les photographier ou de les retranscrire fidèlement. Dans certaines salles, l'arrangement dominant était agrémenté par des cartes, des croquis astronomiques et autres dessins scientifiques à grande échelle, ce qui corroborait de façon naïve et terrible à la fois ce que nous avions déduit des frises et des plaintes. En commençant à dévoiler ce que nous en avons tiré, je ne peux qu'espérer que mon compte-rendu n'éveillera pas de curiosité dépassant les limites de la prudence chez ceux qui choisiront de me croire. Ce serait une tragédie si quiconque se trouvait attiré vers ce royaume de mort et d'horreur par le récit même censé l'en décourager. En différents points de ces murs sculptés s'ouvraient de hautes fenêtres et de vastes portes d'entrée de 4 mètres, gardant parfois les restes de planches pétrifiées, soigneusement gravées et polies, qui avaient été des portes et des volets. Toutes les charnières de métal avaient disparu depuis longtemps, mais certaines portes étaient restées en place, et nous avons dû les forcer afin de continuer notre progression. Des encadrements de fenêtres encore pourvus de vitres transparentes et elliptiques avaient survécu ça et là, mais en faible quantité. Il y avait aussi de nombreuses niches de taille impressionnante, vides pour la plupart, mais dont certaines contenaient encore d'étranges objets taillés dans une stéatite verte qui avaient été soit cassés, soit jugés trop insignifiants pour être emportés. D'autres ouvertures étaient certainement reliées à des mécanismes disparus servant au chauffage et à l'éclairage et autres conforts domestiques, comme le suggéraient de nombreuses sculptures. Les plafonds étaient unis, mais avaient parfois été ornés de carreaux faits de stéatite verte ou d'autres roches, aujourd'hui tombées à terre pour la plupart. Le revêtement des sols se composait parfois de dalles de même nature, mais consistait le plus souvent en un simple pavage de pierre. Comme je l'ai déjà mentionné, il n'y avait ni meubles ni autres objets mobiles. Néanmoins, les sculptures nous donnaient une idée assez claire des étranges appareils qui avaient jadis comblé ces tombeaux remplis d'échos. Au-dessus de la couche de glace, le sol des pièces était généralement recouvert d'une épaisseur de gravats et de débris, mais plus bas, les choses se présentaient mieux. Dans quelques salles et corridors des niveaux inférieurs, on ne relevait rien de plus qu'une couche de poussière et quelques incrustations, et certains endroits donnaient même l'impression étrange d'avoir été tout juste balayés. Bien sûr, là où des éboulements s'étaient produits, ces étages inférieurs étaient aussi encombrés que ceux du haut. Comme d'autres structures que nous avions étudiées d'en haut, une cour centrale permettait d'éviter que l'intérieur soit plongé dans l'obscurité totale, si bien que nous n'avions presque pas à employer nos torches, sauf pour examiner de plus près les détails des bas-reliefs. Toutefois, sous le glacier régnait la pénombre, et à bien des endroits, les ténèbres étaient presque absolues. Pour se faire ne serait-ce qu'une idée rudimentaire de nos pensées et de nos sentiments, tandis que nous nous enfoncions dans ce labyrinthe silencieux de maçonnerie inhumaine, il faudrait combiner un chaos désespérément déroutant de sensations fugitives, de souvenirs et d'impressions. L'antiquité terrifiante et la désolation putride de ce lieu auraient suffi à désorienter toute personne saine d'esprit. Mais à ces éléments venaient s'ajouter les horreurs inexpliquées du camp et les révélations impliquées par les sculptures murales qui nous entouraient. Et lorsque nous sommes tombés sur une série de sculptures intactes dont l'interprétation ne souffrait aucune ambiguïté, un rapide examen nous a suffi pour que la vérité nous apparaisse. Une vérité dont je n'aurais pas la naïveté de prétendre que Danforth et moi ne l'avions pas déjà soupçonnée de manière indépendante, bien que nous ayons soigneusement évité d'y faire seulement allusion. Il ne restait plus le moindre doute miséricordieux quant à la nature des êtres qui avaient bâti et habité cette monstrueuse cité morte des millions d'années auparavant, lorsque les ancêtres des hommes n'étaient que des mammifères archaïques et que d'énormes dinosaures sillonnaient les plaines tropicales d'Europe et d'Asie. Jusque-là, nous nous étions désespérément raccrochés à une explication alternative, et chacun de nous s'était répété à lui-même que l'omniprésence du motif à cinq branches n'était qu'une exaltation culturelle ou religieuse de l'objet naturel archéen qui était si clairement le modèle de cette forme d'étoile, tout comme les motifs décoratifs de la crête minoéenne exaltaient la figure du taureau sacré, ceux d'Égypte le scarabée, ceux de Rome le loup et l'aigle, et ceux de diverses tribus sauvages, quelque animal totémique. Mais ce refuge mental nous était désormais interdit, et il nous fallait bien regarder en face cette vérité démentielle que le lecteur de ces pages a certainement devinée depuis longtemps. Je peux à peine me résoudre à l'écrire noir sur blanc, mais peut-être cela ne sera-t-il même pas nécessaire.